Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
À voix nue, Sylvie Tanette.
Laurent Meuvignier, écrivain.
Troisième épisode, un auteur de fiction. Bonjour Laurent Meuvignier.
Bonjour.
Alors hier, nous avons parlé de vos études aux Beaux-Arts à Tours et de la publication de votre premier roman. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on entre un peu dans ce qui fait la spécificité de votre écriture. Alors après le roman des débuts, il y a un texte qui constitue un tournant, c'est Dans la foule, en 2006, que je peux relier d'ailleurs à un roman qui a été écrit après, c'est Autour du monde, en 2014. Deux livres qui sont chaque fois une sorte de performance, de prouesse littéraire, une multitude de récits enchâssés. Racontez-nous un petit peu comment vous passez de l'enfermement d'un petit village de Touraine à un roman comme Dans la foule, qui démarre sur le drame du stade du Hesel.
Alors, il y a plein de raisons qui, a priori, sont pas forcément reliées, puis finalement qui ont été reliées par le biais de ce livre. Notamment, la première chose, je pourrais dire, j'entendais beaucoup, moi, dans les années 2000, on l'entend moins, ça, peut-être, maintenant, mais dans les années 2000, on entendait beaucoup de mal de la littérature française. On l'entend toujours, du mal, mais sur le fait que la littérature française était un peu chichiteuse, toujours très nombriliste, très petite chose, alors que les Américains, eux, ils font des grands romans, tout ça, etc. Et moi, alors, je me sentais attaqué personnellement. Alors, c'est très prétentieux de ma part, mais tous les écrivains pensent qu'ils sont la littérature personnellement, ou sinon, c'est pas la peine. Et comme tout écrivain, j'ai un moment où je pense que je suis la littérature. Franchement, sinon, je pense que c'est pas intéressant d'écrire. Et je supportais pas d'entendre toujours ces attaques contre la littérature française. Je me souviens d'une fois d'entendre dans une grande enseigne de librairie rue de Rennes à Paris, une dame demandant au libraire s'il faut qu'elle lise un livre français ou un livre américain. Et le libraire lui répond, un livre américain, bien entendu. Bon, et j'entends ça et c'est... J'ai failli intervenir, ce que je n'ai pas fait, mais bon, voilà, bon, des choses comme ça, et en même temps, avec quelque chose là-dedans que je ressentais, moi, je me disais, bon, j'ai fait 4 livres, c'est des livres courts, c'est des livres, j'ai l'impression de commencer à avoir une petite maîtrise, oui, je peux faire un livre de 120 pages, je peux le faire plus ou moins bien, plus ou moins, je sais pas après, mais ça c'est pas moi de le dire, mais j'ai l'impression que je maîtrise de mieux en mieux ma petite machine, et j'ai pas envie de maîtriser ma petite machine en fait. J'ai envie de retrouver ce que j'ai aimé dans le premier roman, à savoir dans le deuxième aussi, me sentir totalement en face de quelque chose que je maîtrise pas et qui me déborde, quoi.
C'est l'expérimentation, finalement, qui
l'expérimentation, vous intéresse. Ouais. Ouais. L'expérimentation, et puis la prise de risque, l'expérimentation, mais pas seulement pour bidouiller, mais aussi parce que ce que ça implique par rapport à un objet artistique, de se dire qu'on va pas forcément y arriver.
Oui, parce que vous auriez pu rester sur ce que vous faisiez. Laurent Meuvignier, on l'a pas dit dans l'émission d'hier, mais le premier roman tout de suite a été hyper bien reçu. Et dès le deuxième roman, qui est Apprendre à finir en 2000, vous avez le prix du livre Inter.
Ouais.
Donc en gros, c'est tranquille. Vous auriez pu rester sur un chemin tout tracé et vous partez effectivement, tout en restant fidèle à votre écriture, à vos thématiques, vous partez avec Dans la foule dans quelque chose de quand même très différent, beaucoup plus ample, beaucoup plus ambitieux.
Et ça, oui, ça. Alors après, ça avait commencé même, j'allais dire, un livre comme ceux d'à côté, après, justement après le livre Inter. Je voyais tellement de gens qui trouvaient que c'était... Apprendre à finir, c'était bien. Effectivement, j'aurais pu continuer là-dessus, mais même ça commençait à me poser des questions sur la question de l'empathie, du monologue, etc. Où je me disais, mais enfin, là, ça va parce que ce personnage de la narratrice d'apprendre à finir, on l'aime bien, donc ça va. Mais si par exemple je fais la même chose, le même procédé d'écriture avec un personnage qu'on n'aime pas, mettons un violeur par exemple, qu'est-ce qui se passe? pourtant ça sera le même procès d'écriture, ça sera la même chose, mais là ça va coincer. Et c'est pour ça que j'avais écrit ceux d'à côté, et je confirme que ça avait coincé. Mais c'était important pour moi que ça coince, que de dire bah oui, mais c'est trop facile de se mettre du bon côté entre guillemets. Donc j'ai déjà, à chaque fois que j'ai eu un livre qui a marché bien ou très bien, j'ai toujours eu ce besoin de le contredire un peu, ou de contrecarrer, ou de me méfier un petit peu de toute cette chose qui va trop dans le même sens. Donc je me méfie un peu de tout ça. Et puis avec Dans la foule, là je me disais oui, bah là, je vais devenir un, voilà, je vais faire comme pas mal d'auteurs, je vais publier mon petit roman tous les 2 ans, ça va être sympa comme ça, puis dans 30 ans on se revoit pour la retraite et tout. Je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie de ça, quoi. Non, moi je veux me retrouver en face de choses que je ne sais pas faire. Je veux écrire des livres que je ne sais pas écrire. Mais même c'est juste aussi une question de jouissance, une question d'adrénaline, une question de risque. J'ai besoin d'être inquiet, de me dire je ne vais jamais y arriver. Je ne sais pas le faire. Sinon c'est inenvisageable de me lancer dans un livre dont je sens que je... Parce qu'une fois encore, ça rejoint cette question du pouvoir. Si je sens que dès le départ, j'ai la main sur le livre, ben c'est moi le patron, c'est moi le chef, et c'est bon, quoi. Mais ça ne m'intéresse pas du tout, ça. J'écris contre ça. Donc, je veux me mettre dans des situations où, au contraire... Le livre me pose la marche est trop haute ou et à l'époque je lisais de Lilo et je me souviens du début d'Outre-Monde et ça m'avait, c'est vrai que je me dis ça n'existe pas en littérature française pour le coup, je dis waouh, ça m'avait tellement impressionné ce le début avec le match de baseball. Et puis il y avait et parallèlement à tout ça il y avait l'influence ou en tout cas la marque de ce qui s'est des tours du 11 septembre quoi, de 2001, et dont je savais pas comment ça m'avait, quelque chose m'avait travaillé là-dedans, et je me disais comment je voulais pas faire un livre là-dessus parce que ça me paraissait à la fois trop proche et puis pas mon histoire, mais je me disais il y a quelque chose dans l'histoire de la sidération qu'on a eue à ce moment-là que j'ai déjà vécu. Et ça m'a ramené au Hesel. Pourtant, le Hesel, j'y étais pas, mais pour le coup, ça m'a ramené à Descartes. Ça m'a ramené dans ma petite maison de famille. Ça m'a ramené avec ma mère. Parce que je me souviens que quand c'est arrivé, ma mère s'était effondrée, en fait, en voyant ça. 85, c'était 2 ans après la mort de mon père. Et ma mère en pouvait plus de toute la violence du monde d'un seul coup. Quand on l'a vue à la télé, elle a réagi de manière très intime, en fait. Et moi, ça c'est, je sais pas, le 11 septembre, bizarrement, a réactivé ce truc-là, en fait. Et comme j'étais en train de lire De Lilo, il y a quelque chose qui s'est passé entre la question du stade et puis comment sortir de ce petit espace familial, de ce petit truc, du roman nombriliste ou du petit roman français, du petite chose, quoi. Il y a eu tout un mélange de toutes ces données-là, en fait. On dit, il faut que je casse tout, il faut que je parte sur quelque chose de totalement différent. Et alors j'ai commencé, je me suis lancé dans cette histoire-là en me documentant, en allant à Bruxelles, en faisant un travail que j'avais jamais fait, et puis vraiment en arrivant à me dire au bout d'un moment que je maîtrisais pas complètement l'objet, puisque j'arrivais à faire le côté polyphonie et tout ça, mais c'est un livre que j'arrivais pas du tout à terminer. Par exemple, quand je l'ai envoyé chez Minuit, c'est la première fois que j'avais pas vraiment fini le livre, mais j'étais déjà à 800 pages et je savais pas comment le terminer. J'arrivais pas, en fait.
Oui, mais en même temps, Laurent Mauvigné, ce qui m'intéresse, c'est qu'au fond, même dans des livres comme Autour du monde ou comme Dans la foule, vos livres, ils parlent toujours d'enfermement. On sort pas de ça.
Non, parce qu'en fait, c'est vrai que avec Dans la foule, j'avais essayé justement de casser les murs de mon petit univers, mon petit univers déjà d'écrivain, c'est-à-dire enfin même pas d'écrivain, mais d'écriture, dans le sens vraiment où, d'un format autour de 120 pages dans lequel je commençais à prendre mes petites habitudes, où je sentais que j'avais une certaine, quelque chose qui pouvait comme ça se faire, bon. Et là, ça, j'avais besoin de casser ça, de me donner pas un défi pour simplement faire le malin ou je ne sais quoi, mais vraiment pour essayer de me mettre un petit peu en danger avec mes propres structures mentales. Sauf que je me suis aperçu en écrivant dans la foule, mais vraiment, j'avais presque fini, hein, le livre. Je me suis aperçu que je m'étais servi d'une, jusqu'à présent, de module comme d'une maison pour faire le premier livre, et qu'au fond, dans la foule, même si c'était sur une taille européenne, j'avais les Anglais, j'avais les Français, j'avais les Italiens, j'avais les Belges, j'avais un stade, mais un stade, c'est un endroit fermé, et il y a peut-être 60 000 personnes dedans, mais ça reste un huis clos, en fait. Et c'est vrai que vous avez tout à fait raison de faire le rapprochement avec Autour du Monde, parce que les deux livres sont vraiment très liés. Presque 10 ans après, j'étais encore avec cette question-là, et je me suis retrouvé exactement avec le même problème. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans des monologues, c'est une langue très différente, mais au milieu du livre, en faisant Autour du Monde, et vraiment parce que pareil, j'avais envie d'élargir le prisme, de sortir le plus possible de mon espace mental, de mon enfermement, en fait. Quand je me suis aperçu à la moitié du livre, j'avais mon petit planisphère sur le mur. Je m'apercevais que je construisais un truc qui se passe sur tel continent, sur tel autre, etc. Puis en fait, je me suis dit au bout d'un moment, mais en fait, c'est une maison. On va dire l'Afrique, on va dire c'est la chambre, là-haut, on va dire c'est, etc. Bon, mais en fait, je change de focale. D'angle, mais d'un point de vue de la construction mentale, il n'y a aucune différence. C'est une différence d'échelle, mais c'est tout. Donc maintenant, cette question est un peu réglée pour moi.
Mais en même temps, pourquoi vous faites de la fiction, Laurent Mauvigné ? Vous êtes quand même dans une génération qui a beaucoup travaillé l'autobiographie, l'autofiction. Et toutes ces histoires dont vous nous avez parlé, de votre enfance et de votre mère et tout ce qui s'est passé, vous auriez pu aussi juste écrire là-dessus.
Oui, mais ça c'est une question qui est très, très compliquée. Parce que d'une certaine manière, j'allais dire je suis de cette génération-là, mais Coltès m'a toujours plus intéressé que Guibert, quoi, en gros. Si je peux résumer ça à ça. C'est-à-dire qu'il y a d'une certaine manière quelque chose où j'avais l'impression qu'en passant par la fiction, je pourrais, pour moi, je dis pas pour les autres, moi j'ai pas de leçon de morale sur la question de l'autofiction, l'autobiographie, etc. Parce que je pense que vraiment chacun fait ce qu'il peut avec les outils qu'il a, avec son histoire, avec ce qui voilà. Simplement, moi j'avais l'impression, je me disais, si je nomme Descartes, si je me nomme moi, je vais pouvoir parler de la réalité, mais je sais que je vais rester en surface si je fais ça. Je sais que je dirai pas la vérité jusqu'au bout. Je sais que j'irai pas au bout. Je sais que je toucherai pas le nerf de la guerre. Je le sais. J'aurai l'impression qu'à mi-chemin, j'aurai l'impression d'en avoir fait beaucoup. D'avoir fait trop.
Et la fiction vous permet d'approcher plus, en fait.
Pour moi, oui. Pour moi, j'ai l'impression que je me mets plus à nu par la fiction qu'en passant par quelque chose qui serait plus autobiographique. Peut-être maintenant, je dirais plus tout à fait la même chose. Maintenant, peut-être ça pourrait changer. Mais à l'époque, j'avais l'impression que la fiction me permettait d'entrer dans l'écriture. Et puis aussi simplement parce que je suis un lecteur de romans aussi, simplement. J'aime ça, j'ai toujours aimé ça. Et puis contrairement à ce que j'entendais beaucoup à l'époque, j'ai toujours eu le sentiment ou la sensation intime que le roman était pas mort, que la littérature était pas morte et que la fiction était possible. Simplement, la question pour moi, ça a toujours été la fiction comment ? Vous savez, c'est toujours ce truc, on voit ça pour les films tirés d'une histoire vraie et on joue toujours sur l'ambiguïté du mot vrai. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelque chose est vécu qu'il touche plus de vérité. On voit plein de reportages de trucs à la télé complètement cons. C'est que des histoires vraies, mais tout est du pipeau. Dans la façon dont c'est mis en scène, dans la façon dont c'est fabriqué, tout est fabriqué. Et pourtant, c'est des histoires vraies. Et ben moi, je m'en fous de ça. Il y a plein de romans qui sont des livres d'autofiction et qui sont du pipeau absolu. Pour moi, c'est pas ça la question du tout. La question, c'est pas la question de toucher l'histoire vraie en termes de vécu. C'est en termes de vérité que ça se pose.
Vérité des choses.
Ouais. Voilà, c'est pas.
Mais vos personnages, en même temps, vous les créez comment? Ils arrivent comment?
Au début, je suis autour de silhouettes, d'une image. Justement, je prends ça avec beaucoup d'inquiétude et de, j'allais dire, de méfiance. Parce que quand on passe par la fiction, je sais très bien, il y a la question des stéréotypes, la question des clichés, tout ça. Donc, je pense, je sais pas, j'ai des silhouettes, des images comme ça qui viennent. Et puis, au fur et à mesure, j'essaie de les travailler, de les faire parler, de les malaxer, de les... Et puis je sais qu'il y a un moment où cette silhouette va devenir un personnage, et la question c'est de faire passer le personnage à un autre endroit plus intériorisé, où là, qui rejoint quelque chose d'intime, mais ne pas s'arrêter à cette question-là, de trouver une personne derrière le personnage. C'est pour ça que pour moi, cette question de différence entre fiction et autofiction ou autobiographie, c'est une question un peu universitaire et un petit peu vaine, en fait, quoi. Parce que peu importe. La question, c'est que là, si, je sais pas, moi, c'est que je me retrouve dans une situation avec des gens qui sont là, qui existent, qui sont en face de moi, je vais toujours essayer de me dire, tiens, qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Quel est l'endroit qui ne se dit pas? C'est ça, moi, que je cherche. Donc que la personne, elle existait ou... Et du coup, parfois, avec des personnages de fiction, je retrouve des situations de la réalité, du quotidien, mais que je peux fusionner avec plusieurs personnes, que je peux construire, c'est-à-dire dépasser la question, justement, de ce premier endroit du réalité, de la réalité, pour toucher ce qu'on pourrait appeler le réel, quoi. Mais le réel, justement, c'est peut-être ça, ce qui me gêne souvent dans l'aspect trop direct de l'autobiographie, c'est qu'on touche la réalité tout de suite, mais que d'une certaine manière, ça fait un peu écran au réel. Ça empêche d'aller un peu casser les miroirs. Mais bon, pour le coup, c'est mon point de vue dans ma pratique. On pourrait me dire le contraire, que ça m'irait tout autant, parce que je comprends bien que c'est juste moi dans ma pratique, quoi.
Et vos personnages de femmes, je suis toujours intéressée par la façon dont vous mettez en scène les femmes. D'abord, vous dites, vous avez plusieurs fois dit « je » à la place d'une femme, ouais. Laurent Mauvigné. C'est pas si courant qu'un auteur garçon dise « je » à la place d'une femme. Et c'est souvent des femmes qui nous paraissent très banales, entre guillemets, et vous nous montrez à travers les livres, comme dans « Histoire de la nuit », Marion, le livre qui est sorti, le roman qui est sorti en 2020, il y a cette femme qui est une mère de famille et on apprend qu'elle a un passé. Et c'était pareil dans Continuer. Il y avait une femme qui partait avec son fils au Kyrgyzstan. On apprenait qu'elle avait un passé.
Voyez, c'est pas...
Elles viennent d'où, ces femmes?
C'est ça que j'aime dans la fiction, en fait. La fiction, elle me permet de rejoindre les femmes que je suis, en fait. Moi, je m'identifie totalement à elle. Et à ce moment-là, je sais que je suis totalement elle, quoi. Il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a un enfant en moi, je sais qu'il y a un vieillard en moi. Et ce que j'aime dans la fiction, c'est que tout le travail, et qui est très long, pour le coup, à se mettre en route, etc., c'est de rejoindre cette part de soi qu'on met dans les autres, qu'on met dans des autres inventés, mais qui, en réalité, il s'agit de les rejoindre. Mais ça, pour moi, ça vient de quelque chose de très précis. Pour le coup, quand j'étais enfant, je me souviens que j'assistais, j'étais un espion quand j'étais petit, je regardais tout, j'écoutais tout. Et puis à chaque fois, je me disais, quand j'entendais les adultes, je me disais, oh, j'espère que tu ne m'oublieras pas. J'espère que tu seras toujours relié. Tu vas pas devenir comme ces gens. Moi, ce qui me fascine chez les adultes, c'est qu'on a l'impression que ce sont des gens qui n'ont pas eu d'enfance. Qui ont un rapport aux enfants, comme si les enfants, c'était une autre espèce, quoi. Mais non, l'enfant qu'on a été, il est là, toujours, en soi, on l'a toujours. Et je me souviens que je me jetais des bouteilles à la mer en me disant, surtout... et donc, je parlais avec mon moi futur adulte. Maintenant, je continue à le faire dans l'autre sens. Des fois, je parle à mon moi d'enfance. Et j'ai l'impression que dans la fiction, avec les personnages, c'est ce que je cherche à faire tout le temps. C'est rejoindre quelqu'un que je suis aussi en partie. mais qui n'est pas que moi, qui n'est pas qu'une projection, mais souvent j'ai l'impression que, tiens, ça c'est du personnage encore. Non, il faut aller, faut descendre plus. Dans la vérité d'une sensation, par exemple, je ne sais pas si c'est la jalousie, si c'est l'amour, si c'est la solitude. Essayez de toucher ça avec moins de faux-semblants, quoi, d'essayer de creuser encore un peu plus.
Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème avec le temps aussi chez vous. Effectivement, comme si les temps d'une vie cohabitaient. De la même façon dont vous venez de nous dire que l'enfant, le petit garçon était toujours là. Et on le voit dans vos romans, parce que le passé et le présent, ils sont toujours enchâssés.
Ouais, mais ça, je pense que tous les gens qui, soit qui font des cauchemars, soit qui sont un peu insomniaques, soit qu'on a un problème avec la nuit, en fait, en général, ou avec le sommeil, je pense qu'ils connaissent bien ça, cette façon dont les choses se télescopent et vivent ensemble, ou comme le rêve, par exemple, la réalité. C'est aussi pour ça que la fiction m'intéresse peut-être plus que la question autofictionnelle, ou, c'est-à-dire que, au fond, j'ai la sensation que tout ce qui nous peuple fait partie de notre vie, y compris les œuvres de fiction des autres. Moi, je me dis que la recherche du temps perdu, ça fait autant partie de mon histoire, de mon autobiographie, que ma grand-mère, quoi. Et j'ai l'impression qu'à la fin de ma vie, tout ça, ce sera la même réalité, et qu'il n'y a pas de, il y aura pas de, je pourrais pas forcément dire ce qui a été vécu ou pas vécu, parce que je l'aurais vécu quand même, en fait. Je l'aurais vécu de toute façon. Et c'est vrai que pour moi, dans l'écriture d'un livre, il y a toujours cette façon de vivre à, j'allais dire, à presque à niveler, de manière à ramener les choses du passé, du futur, du présent ou du fantasme au même degré de réalité. En fait, tout ça,
les
la
faire
même
cohabiter.
Existence. Voilà, les faire cohabiter. Quiconque fait des cauchemars de temps en temps sait qu'ils sont très présents et que c'est pas du ou même quand un souvenir vous revient et qu'il vous habite, il se vit au présent. Les affects se vivent au présent. Les affects, c'est bien pour ça qu'on a. Vous voyez, quand on dit, je sais pas, quand les gens pour les attentats ou etc. Quand on fait des cellules psychologiques etc. pour aider les gens. C'est parce qu'on sait que même quand on est sorti d'affaires de quelque chose, malheureusement, les affects, ils persistent. Il y a ce vous savez, ce proverbe « chat échaudé craint l'eau froide ben, ». En fait, c'est ça. Il y a quelque chose de... Tout peut se réactiver tout le temps. Et pour moi, la littérature, c'est cette espèce de plaque sensible qui peut ramener le passé au présent, qui peut... J'avais fait ça dans Des Hommes. C'est pour ça que j'avais fait... tout ce qui se passe, toute la remémoration de l'Algérie, de la guerre d'Algérie, était faite au présent, vraiment précisément pour cette question-là, quoi, dans ce travail-là.
Non, on a l'impression que quelque chose est resté là-bas à Descartes, ou que Descartes est toujours là, ici, aujourd'hui.
Bah oui, forcément, j'ai envie de dire... oui, ouais.
Et comment ça a été vécu quand vous avez commencé à écrire, à publier dans ce milieu dont vous nous parlez, où on lisait pas, ça a créé un gouffre entre vos proches qui peuplaient votre enfance ou pas, ou comment on vit ça?
Bah en fait non, parce que j'allais dire j'étais déjà parti, je vivais plus là-bas. Et puis après, avec ma famille, mes frères et sœurs, la famille proche, à chaque fois que je sors un livre, je leur offre le livre, je leur fais une petite dédicace. Et puis voilà, c'était marrant. Par exemple, le premier, pour loin d'eux, je leur avais offert le livre. Et ma sœur a fait, c'était à Noël, je crois, elle avait fait une... Comment dire, une bûche de Noël en forme de livre avec loin d'eux écrit dessus, ça m'avait fait mourir de rire. Non, c'est très, en fait, ce qui me, on n'a pas beaucoup de solutions en fait dans la vie quand on a ce genre de problématique d'écriture, c'est que soit on peut le travailler comme Annie Ernaux en se disant je prends la réalité, je prends ma vie, je prends le quotidien, Et j'essaie de faire de la littérature avec ça, mais du coup je baisse le curseur de la littérature en mettant à plat, en essayant de mettre à plat. Ou alors, moi, arrivant après la bataille, j'ai envie de dire, je me dis, ben moi, il me reste presque l'inverse à faire, c'est-à-dire, non, j'essaie de penser une espèce de littérature qui se voudrait une haute littérature avec une exigence d'écriture, au contraire, où on met de la forme, mais avec avec quelque chose de très prosaïque, avec des personnages du réel, avec vous voyez. Et le seul problème que ça pose, ça, pour revenir à la question, c'est que je fais du roman, je parle de la vie des gens, mais en même temps, comme parfois les phrases sont un peu complexes et un petit peu longues, etc., c'est des romans que, bah, pour le coup, que les gens dont j'aimerais qu'ils puissent les lire, en fait, ne les lisent pas, ces livres-là. C'est ça, mon grand drame là-dedans. C'est que ces livres-là, ils sont... En fait, c'est-à-dire, il y a un moment, c'est est-ce qu'on descend le curseur, c'est-à-dire en se disant rendre accessibles les livres le plus possible, ou est-ce qu'on essaie de faire monter le degré de littérature, mais c'est compliqué. Et moi, j'ai choisi une option, enfin, en tout cas, c'est allé comme ça pour moi, parce que l'écriture m'a emmené vers ça, mais qui rend parfois l'écriture un petit peu difficile d'accès, quoi. Et c'est pas ce que j'aime le plus.
Merci Laurent Monvillier. En tout cas, tout est pensé, tout est construit dans cette volonté de chercher ce qu'il y a derrière le silence et l'apparente banalité d'une vie. Il me semble quand même qu'il y a quelque chose de très politique dans ce que vous venez de nous dire. Mais ça, on en parlera dans notre prochain épisode. Merci Laurent Monvillier pour cette rencontre. À demain.
Merci.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Fabien Gosset, réalisation Marie-Laure Ciboulet, une série de Sylvie Tanette disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.